Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Bonjour à vous tous, chers amis de Radio Cité. C'est maintenant l'émission Nectar que Aristide a le plaisir de vous offrir. Eh bien, aujourd'hui, pour Nectar, nous allons parler du vin. Ça, c'est bien entendu, mais nous allons parler surtout de littérature. La question qui se pose, en somme, c'est qu'est-ce que le vin représente pour moi? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il est dans votre vie? Pour certains, c'est simplement une boisson. Pour d'autres, c'est le signe, le symbole de la convivialité. D'autres abordent le vin en esthète, d'autres en collectionneur, etc., etc. Donc il y a beaucoup de façons de percevoir le vin de manière prosaïque et ce jusqu'au mysticisme, disons. Voilà. Alors, nous avons déjà parlé de quelques écrivains qui se sont intéressés donc à la divine boisson. C'est Rabelais qui parle de la dive bouteille. Rabelais né près de Chinon. Le vin lui était quotidien, il l'a célébré de manière magnifique, avec l'outrance que l'on sait. Bon, le personnage, il est truculent, c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs. Nous avons aussi évoqué Colette, la raffinée, qui est née dans la région qui produit le vin de Chablis, donc qui était également initiée à la boisson divine. Nous avons parlé récemment de Bukowski, le goujat qui était invité à l'émission de Bernard Pivot, apostrophe, et qui s'est fort mal conduit, qui s'est pionné devant les téléspectateurs de manière absolument abominable. Et tout récemment, nous avons évoqué Voltaire. Voltaire, qui, mine de rien, était un amateur très raffiné, qui se réservait, les meilleures bourgognes qu'il allait boire en cachette dans sa cave. Il avait eu connaissance des tout grands crus bien avant l'heure. Et puis, à ses invités, il servait simplement du Beaujolais, un vin plus courant. Et puis, aussi, il combattait l'hiver avec le vin. C'est-à-dire que de voir les crêtes du Jura enneigées lui donnait froid, et il compensait avec du soleil venu du midi sous forme de muscade frontignan. Donc voilà des grands écrivains qui ont fait une part importante au vin dans leur vie. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer trois écrivains qui ont rapport direct avec la Suisse, quand ils ne sont pas simplement helvétiques. C'est Friedrich Dürrenmatt, c'est Rainer Maria Rilke, c'est Hermann Hesse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces trois écrivains? Eh bien, c'est simplement parce que l'année dernière, il y a eu des expositions à leur sujet, en leur lieu, qui ont montré eh bien leur rapport à la boisson qui les a passionnés toute leur vie. Alors, Dürrenmatt était habitant de Neuchâtel sur les dernières décennies de son existence. Il s'est établi dans un petit vallon qui est non loin de la ville de Neuchâtel. Pour Dürrenmatt, le vin, c'était le sujet ou le prétexte à beuverie. Pour Rilke, c'était tout autre chose. C'était la fascination, c'était le symbole. C'est quelque chose, en somme, qui est assez ascétique. Tiens, le vin ascétique, l'auriez-vous cru? Et puis, pour Hesse, disons que le vin était plutôt une consolation qui lui était adressée par Dieu. Alors, Dürrenmatt, c'était à Neuchâtel, Rilke, l'exposition à Sierre, où il y a un musée du vin, et puis Hesse, donc, au Tessin, voilà, où il a fini ses jours, où il s'est établi, pour échapper à beaucoup de tourments du monde, voilà. Eh bien, ayant planté le décor, je vous accorde une petite pause musicale, mais je ne vous abandonne pas, je vous retrouve dans un petit moment.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Rebonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Cité et c'est l'émission Nectar. Alors, nous parlons de Dürrenmatt. Dürrenmatt qui est, à mes yeux, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il faut absolument que vous le lisiez si vous ne le connaissez pas encore. Je m'efforcerai de vous faire envie. Je suis étonné que Dürrenmatt, pour l'originalité, la profondeur, la pertinence de ses écrits, je suis étonné qu'il n'ait jamais eu de prix Nobel. Bon, eh ben tant pis, on s'en consolera autrement. Alors, Friedrich Dürrenmatt est né de famille très pieuse, puisque son père était pasteur réformé du village de Konolfingen. C'est là qu'il est né, c'est près de Berne, à une vingtaine de kilomètres à peu près. La famille s'établit tôt à Berne, où le père poursuit son activité de pasteur. Et pendant ce temps, eh bien, Dürrenmatt va à l'école, comme tout le monde. Mais c'est un très mauvais élève. Ses mentions globales, c'est à peine suffisant. Donc rien qui laisse prévenir, supposer un avenir glorieux. Dürrenmatt dira d'ailleurs que la scolarité, c'était la pire période de sa vie. Et alors à 20 ans, il se trouve devant un dilemme étonnant, c'est-à-dire qu'il est attiré par la littérature, oui, mais tout autant par la peinture. Donc, il se demande, le choix est clair, est-ce qu'il faut peindre ou plutôt écrire? Je me sens attiré par les deux. Eh bien, en réalité, il pratiquera les deux. Le déclic se produit lorsqu'il découvre le monde du théâtre. Ça l'incite à écrire une première pièce qui s'appelle « Les fous de Dieu ». Alors, « Les fous de Dieu » pour un fils de pasteur, il faut bien convenir, ça fait désordre, et sa pièce initiale créera un scandale. Après, il écrira encore deux pièces qui se solderont par des échecs. Il commencera enfin à gagner sa vie vers l'âge de 25 ans quand il écrira des pièces radiophoniques, en somme des feuilletons. Alors, dans ces livres, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que je vais vous recommander? Alors, ces pièces de théâtre qui ont été des triomphes, qui ont connu la gloire, qui ont été très jouées en Allemagne, c'est Le mariage de Monsieur Mississippi, c'est La visite de la vieille dame, qui est une espèce de traité de l'hypocrisie humaine. Voilà, encore une fois, je le dis, La visite de la vieille dame, Der Besuch der alten Dame, c'est une pièce essentielle. Et puis Les physiciens, c'est quelque chose tout à fait visionnaire, c'est des lectures digestes, c'est absolument prodigieux. Et puis, nous parlerons de La Panne, qui, à mon avis, est totalement géniale et qui évoque, plus que d'autres ouvrages, le vin. Voilà. Et puis, j'attire aussi l'attention sur un ouvrage qui est peu connu. C'est un ouvrage qu'il écrit sur le tard, qui s'appelle La Mission. C'est le monde des espions, c'est le monde de la mondialisation, c'est le monde planétaire où tout le monde espionne tout le monde, on ne sait plus qui dit vrai, on ne sait plus qui est votre allié, qui est votre ennemi, etc. Et on est dans un monde absolument invivable parce que la parole n'a plus aucune valeur. C'est absolument cauchemardesque. D'ailleurs, ce cauchemar se traduit dans les phrases qu'utilise Dürrenmatt parce qu'il fait des phrases qui durent une page entière ou même davantage. Donc c'est un imbroglio. Perd ses repères, ce bouquin, La Mission, est absolument extraordinaire. Alors, j'en viens maintenant à La Panne. La Panne, c'est l'histoire d'un représentant de commerce qui se nomme Alfredo Traps, voilà, qui tombe en panne avec sa voiture un soir. Il fait nuit noire, et il n'a d'autres ressources que de se diriger vers une villa, comme ça, il sonne. Il est bien reçu, il y a quatre personnages assez âgés, des retraités, qui sont des anciens juristes, qui l'invitent, très cordialement, à partager leur repas. Et ce repas est un repas tout à fait fastueux. Donc ils sont quatre, plus Alfredo Traps, celui qui est victime de la panne, donc. Pour une soirée et une nuit, ils ne boivent pas moins de 12 bouteilles de Grand Cru, dont 7 Magnum. Et parmi ceux-ci, on le voit, que Friedrich Dürrenmatt avait la main sûre et que c'était un grand connaisseur, puisque on se régale d'un Pichon Longueville 1933. Ensuite, on boit un Château Paville, premier grand cru classé A maintenant de Saint-Émilion, un Château Margaux, qui est une pure merveille, 1914, donc des bouteilles prestigieuses, anciennes, de grands millésimes. Dürrenmatt connaissait bien les grand millésime. Alors voilà, l'histoire, en réalité, c'est celle d'un procès. C'est-à-dire que ceux qui invitent disent à Monsieur Traps, pour s'amuser, c'est une fiction, c'est un jeu. Eh bien, on va faire votre procès, vous nous racontez votre vie, voilà. Alors les juges sont inquisiteurs, ils lui posent des questions, il y a l'avocat qui défend, jusqu'au moment où on s'aperçoit que Alfredo a commis quelque chose qui n'est peut-être pas très avouable, c'est-à-dire qu'il a eu une liaison avec la femme de son patron. Et il se trouve que son patron a bien dû apprendre la chose et que peu de temps après, eh bien, il est mort d'un infarctus. Voilà. Donc, Alfredo Traps est déclaré coupable et en fin de nuit, rongé par le remords et ayant un peu perdu ses esprits à cause de l'alcool, eh bien, il se pend. Voilà, donc le banquet festif se transforme en dernier repas du condamné. Voilà, donc Friedrich Dürrenmatt, amateur de grands crus. En réalité, il n'aimait pas les vins suisses. Il a écrit, je cite, « Le jour où Dieu voulut punir les Suisses, il leur donna du vin suisse. » Voilà. Il s'était installé à Neuchâtel. Avant, il habitait au bord du lac de Bienne. Ce sont des régions viticoles. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ces deux régions produisent des crus absolument magnifiques. Voilà. Mais enfin, bon, ben, le vin de Neuchâtel n'était pas à son goût. Dürrenmatt buvait de façon assez sauvage, c'est-à-dire que le repas, il ne l'ouvrait pas par le petit coup de blanc comme cela se fait de manière tout à fait rituelle. Il commençait souvent par boire du kirsch, suite de quoi il passait au bar et il finissait par exemple par une petite prune. Et puis ensuite, ben voilà, c'était le tour du blanc, peut-être quand même le blanc de Châtelois. Dürrenmatt, je vous l'ai dit, avait des connaissances sur les vins de Bordeaux, de Bourgogne. C'était un érudit en la matière. Et sa cave a été dite la plus sulfureuse de Suisse. Pourquoi ? Je trouve ça très amusant. Quand à Neuchâtel, une grande personnalité décédait, il se tournait vers la veuve avec l'espoir qu'il y ait une cave, donc des bouteilles de choix, à racheter. Donc sa cave, on pouvait le dire, c'était la cave des veuves. Et puis il avait des contacts aussi avec un commerçant en vin qui était en avance sans doute pour son temps, en avance sur son temps, voulais-je dire, qui avait des contacts avec les premiers grands crus classés de Bordeaux. Il pouvait importer du château Latour, rien que ça, du château Lafitte, prestigieux s'il en est, du château Mouton Rothschild, qui à l'époque n'était pas encore premier cru classé, il se trouve que le vin favori de Bordeaux, et ça montre là une belle sagacité, c'était pour Friedrich Dürrenmatt le château Lynch-Base. Voilà. Donc, Dürrenmatt, un fétichiste du vin, il lui arrivait souvent à faire venir du vin par camion entier et il en avait pour 10 000, 15 000 ou même davantage, donc il dépensait beaucoup. Voilà. Alors ce qu'on peut se demander, c'est en somme, la créativité de Dürrenmatt se trouvait boostée par l'alcool. Hein, il y a des gens qui ne peuvent pas écrire ou peindre, dessiner quand ils sont sous, ou jouer de la musique quand ils sont sous boisson, eh bien, il faut croire que Dürrenmatt, qui avait une vraie fringale de créativité, autant plume en main que pinceau en main, eh bien, était stimulé par l'alcool. Donc, il pouvait rentrer d'un repas bien arrosé à 4 heures du matin. Il se mettait à sa table de travail ou il se mettait dans son atelier. Il peignait et il était incroyablement productif. Voilà. Donc, voilà, je voulais simplement évoquer Dürrenmatt pour qui le vin est sujet de beuverie. Et voilà ce qu'il écrivait en fin de vie. Je lis un petit texte qui date de 1978, donc il lui restait à peine 12 ans à vivre. « Mon erreur fut de trop boire. Mon erreur, ce fut aussi mes pitreries. Maintenant, je bois raisonnablement, mais je ne supporte plus que le vin blanc, que je bois avec ma femme, pas n'importe où, dans mon cabinet de travail, qui se trouve juste au-dessus de la cave à vin rouge la plus célèbre et la plus sulfureuse de Suisse. Voilà. Eh bien, nous avons évoqué Dürrenmatt. Vous méritez une petite pause. Je vous retrouve dans quelques secondes.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide vous entretient de quelques écrivains qui furent des passionnés de vin. Alors, Rilke, Rainer Maria Rilke, que l'on tient pour un écrivain et poète allemand. En réalité, il est autrichien et en réalité, il est né à Prague en 1875. Alors, son itinéraire est assez curieux, il voyage beaucoup, il fait de longs séjours à Paris. Il finira sa vie près de Sierre, au-dessus de Sierre, dans le château de Museau que nous évoquerons tout à l'heure, parce que ce château trône au milieu des vignes. Voilà. Alors, Rilke ne se lance pas tout de suite dans la littérature. Il est fasciné par un personnage, un grand artiste, évidemment, s'il en est. C'est Auguste Rodin, le sculpteur, qui vit à Paris. Et en 1900, Rilke rencontre, il a le bonheur de rencontrer une ancienne élève de Rilke, qui lui parle du maître. En 1901, il rencontrera une autre élève de Rilke, donc sculptrice, du nom de Clara Westhoff, et il l'épouse. Voilà. En 1902, le couple se sépare, mais le lien spirituel avec Rodin est établi, de sorte que Rilke se rend à Paris avec l'idée, le projet de rédiger une monographie sur Rodin. Voilà. D'une façon, Rodin deviendra son maître à penser, il le rencontrera, et alors voilà qui est important et même décisif, de 1904 à 1906, Rilke deviendra le secrétaire particulier de Rodin. Et alors, il lui demande en somme, mais comment faire? Comment vivre? Que dois-je faire pour réussir dans mon projet de littérature? Voilà. Eh bien, c'est Rodin qui lui qui le persuadera que en matière artistique, tout est discipline, tout est rigueur, tout est travail. Voilà, alors nous avons vu que Dürrenmatt est stimulé dans sa créativité par le vin. Pour Rilke, c'est exactement le contraire. Et voilà ce qu'il écrit. Les meilleurs médecins s'accordent tous sur le fait que même une consommation modérée d'alcool a pour conséquence, entre autres mots, une paralysie momentanée du cerveau. Donc, clairement, le vin est néfaste à l'écriture. Et Rilke renchérit, « Je peux comprendre que quelqu'un tente de violenter son œuvre en buvant du vin, donc la rendre plus extrême, plus prenante. Car alors, c'est le Bordeaux qui tient sa plume. » Voilà. Alors, Rilke aspire à tenir sa plume lui-même, être lui-même, et il ne veut rien devoir au vin. Rodin l'aura éduqué, aura été son mentor, et voilà ce qu'il écrit, donc Rilke, à Rodin le 11 septembre 1902. « Ce n'est pas uniquement parce que je voulais faire une étude que je suis venu à vous. C'est aussi pour vous demander comment faut-il vivre ?» Et vous m'avez répondu « en travaillant ». J'ai évité avec angoisse tous les moyens artificiels dont l'on se sert pour appeler l'inspiration. J'ai commencé à me sevrer de vin, ce que je fais déjà depuis plusieurs années. J'ai tenté de rapprocher directement ma vie de la nature, mais en tout cela, qui était sans doute raisonnable, je n'ai pas eu le courage de faire advenir les moments plus lointains de l'inspiration par le seul travail. Donc, de temps en temps, il craquait, hein, en clair, pour un coup de blanc, un coup de rouge. Je sais désormais que c'est la seule possibilité de les conserver, et ce que vous m'avez offert là, c'est la grande reconnaissance de mon existence et de mon espoir. Donc, Rilke le proclame, l'accomplissement, ce n'est pas par le vin qu'on l'obtient. Le vin, c'est à un moment donné un petit plaisir tout à fait annexe qui n'a rien à voir avec l'expression profonde de soi. Rilke est un personnage qui a de bons contacts avec les gens, spécialement avec les mécènes. Il sera soutenu financièrement un temps par une princesse, Tournun Taxis. Et puis surtout, vers 1920, ce sera un mécène suisse-allemand qui, convaincu de son talent, l'installera au château de Mouzeau, donc qui se trouve au-dessus de Sierre. On y accède en montant, c'est une petite montée, 20 minutes à pied, bien agréable. Et alors, ce qui fascine le plus Rilke, ce sont les paysages viticoles. Il regarde par exemple la colline de Tourbillon et toutes ces terrasses admirables, tous ces rythmes des lignes de la vigne, c'est quelque chose qui le charme complètement. Il y a une chose qui lui est contraire, par contre, c'est la chaleur. Il écrit ceci en 1921 à une personne qui l'a aussi soutenu financier. « Voilà qui serait un coup terrible s'il s'avérait que cette chaleur que je recherchais tant, dont j'avais tant besoin, m'était plus difficilement supportable à chaque nouvelle semaine d'été. » Et puis, donc, le soleil, pour lui, c'est une brute qui s'acharne sur lui. Il se promène beaucoup dans les vignes et il regarde les raisins attentivement. Il est attentif à leur qualité. Et alors, pour lui, la plus grande pitié possible, c'est de voir des raisins qui sont en proie à la maladie, qui ont été victimes de la pourriture, etc. Voilà ce qu'il écrit d'une mauvaise récolte, c'en est assez touchant. Et la vendange, ah la vendange, cette personne nue et forte dont le rire jaillit de l'éclat des grappes, si l'on devait la décrire telle qu'elle se présente aujourd'hui, cette pauvre vendange, cela donnerait ceci, donc comme vin, une créature maigrichonne et malheureuse, un peu bêtasse, traînaillant là en haillons nuageux, et triant tant bien que mal quelques raisins flétris, ratatinés depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc, le vin, il faut qu'il soit rayonnant pour Rilke. Et si le vin n'est pas bon, si le raisin est moche, pour lui, c'est la grande désolation. Il écrira quelques poèmes sur le vin en 1923, c'est-à-dire à la toute fin de sa vie. Ce sont des poèmes qui traitent du vin, donc qui se nomment Esquisses, et aussi en 1924, Les Quatrains Valaisans. Mais à son installation à Mouzeau, il se trouve que Rilke est déjà victime d'un cancer et il meurra quelques années plus tard dans une clinique qui se trouve au-dessus de Montreux, qui se nomme la Clinique Valmont. Eh bien voilà, pour Rilke, un adorateur du vin, bien entendu, un adorateur de la vigne, un adorateur des paysages valaisans, mais quelqu'un qui pratique, à sa table de travail, la plus grande rigueur. Voilà, eh bien, une nouvelle pause, et nous aborderons le cas assez étrange de Hermann Hesse.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Voilà, vous êtes sur Radio Cité, votre chaîne favorite, et c'est l'émission Nectar. Aujourd'hui, le vin vu par quelques grands écrivains. Nous abordons, pour terminer cette présente émission, qui est l'émission numéro 122 de Nectar, le cas Hermann Hesse. Je dis bien le cas parce que le personnage est très déroutant et c'est un personnage qui est, je dirais, presque caractériel. J'ai presque envie de dire qu'il a un problème psychologique carabiné. Permettez-moi cette familiarité. Voilà. Donc, Hermann Hesse naît en 1877 à 20 kilomètres de Stuttgart, dans un milieu très pieux, très religieux, d'ailleurs comme celui de Dürrenmatt. Sa famille, c'était une famille de missionnaires protestants. Et à l'âge de 15 ans, on ne sait pas pourquoi en somme, Hesse se révèle un personnage extrêmement rebelle. Il va à l'école dans un séminaire, un endroit assez strict, et il s'en enfuit. Il est rattrapé après quelque temps, et à partir de cet incident, il entre en conflit très violent et permanent avec ses parents, qui savent pas quoi faire de ce jeune turbulent, impossible à cadrer. On le place dans diverses écoles, mais partout, il se révèle que Hermann est d'une instabilité totale. La famille assez vite s'installe à Bâle. Bâle sera une ville importante pour Hermann Hesse du point de vue littéraire parce qu'il y a de grandes librairies. Voilà. Nous sommes en 1893 et Hermann Hesse tente de se suicider. Donc, il faut de toute urgence le placer dans une maison de santé. Et le diagnostic qui s'abat sur lui est un diagnostic lourd. Il serait bipolaire, c'est-à-dire qu'il connaîtrait des moments d'exaltation et aussi des moments d'abattement profond. Bon, à cette époque, il est encore aux études et il a de mauvaises fréquentations. Donc il va avec des jeunes qui sont en train de mal tourner dans les tavernes. On boit à n'en plus pouvoir, on rentre à la maison dans un état pas possible. Donc le jeune, avant d'avoir atteint la vingtaine, est déjà passablement en perdition. Heureusement, en 1899, il trouve un emploi dans une librairie à Bâle. Et grand événement pour lui, voyage en Italie. Le rêve est accompli. Les Allemands souvent rêvent de l'Italie, voilà. Il trouve un emploi ensuite dans une grande librairie de Bâle. Et c'est là que, en somme, en lisant les livres qu'il vendra, il acquiert une culture littéraire assez considérable. À partir de 1904, il peut désormais vivre de sa plume. Il se marie. Avec son foutu caractère, eh ben, ça ne durera pas longtemps. Le couple qui s'est établi d'abord au bord du lac de Constance et ensuite à Berne se sépare. Hermann Hesse, à partir de 1914, se mêle beaucoup de politique. Il est concerné par son temps et il milite fortement contre un nationalisme allemand qui juge extrêmement belliqueux. Donc Hermann Hesse se fait virulent, il est au cœur des polémiques. Voilà. Tout comme Dürrenmatt, en 1920, il se met à peindre. Et puis, peut-être son ouvrage qui restera son grand chef-d'œuvre, disons son œuvre le plus connu, c'est Siddhartha, écrit en 1922. Donc il a humé au parfum de l'Inde, et puis il arrive à une conclusion qui est très importante et qui, en mai 68, aura encore beaucoup d'influence sur ceux qui veulent changer la vie. Dans Siddhartha, il nous explique que la sagesse, les règles de vie, ça ne vient pas des textes, des sages, des philosophes, mais qu'on doit trouver une vérité à l'intérieur de soi. Voilà, ensuite il se remarie, il y aura un troisième mariage, jusqu'au moment où en 1931 il s'installera au Tessin, dans le village de Montagnola, qui est pas très connu, qui se trouve au bord du lac de Lugano. Et c'est donc là que qu'il trouvera en somme un havre définitif. Voilà. Alors, son succès est assez mitigé en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ses adeptes et puis ceux qui sont contre. J'ai lu des critiques qui font état de mauvais lyrisme, je cite, et d'ennuyeuses limonades, et pour ses poèmes, de vers absolument nuls. Voilà. Eh bien, cela n'empêche que en 1946, Hermann Hesse obtiendra le prix Nobel de littérature. Rien que ça. Voilà. Alors, il a beaucoup écrit sur le vin, et en 1892 déjà, Il rapporte ses beuveries dans les tavernes. Voici en quels termes. Je suis entré au lycée Cannstatt à l'automne 1892. À l'époque, je me suis accoquiné avec les vauriens, les élèves les plus âgés qui avaient mauvaise réputation. J'ai appris à transgresser. Transgresser, c'est très important dans la philosophie de Hermann Hesse. J'ai appris à transgresser les interdictions et à passer mes soirées dans les auberges, à joliment me pochetronner. On retrouve un peu de cette atmosphère dans Demian. Voilà. Une autre citation qui nous montre que pour Hesse, le vin était une boisson extrêmement ambiguë. Lorsque nous reprîmes le chemin de la maison, j'étais ivre pour la première fois. Ce n'était pas agréable, mais extrêmement pénible. Et pourtant, il y avait là-dedans quelque chose. Un attrait, une douceur, un goût de révolte et d'orgie, de vie et d'esprit. Voyez comme tout cela se conjugue, du positif et du négatif. Un attrait, une douceur, mais un goût de révolte et d'orgie, mais tout de même de vie et d'esprit. Les poèmes de Hesse qui traitent sur le vin sont à mes yeux assez uniques. Il prend des libertés. On ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire exactement, mais on est imprégné d'une espèce de feu, d'un enthousiasme profond. Voilà ce qu'il écrit dans un poème qui est intitulé « La Grande Valse », dans lequel il fait allusion à Chopin. Je cite « 1000 flambeaux dans cette salle, choc d'éperon et tresse d'or », donc un salon Paris, Chopin, etc. Ta coupe est belle, je l'avale. On parle du vin. Dansons, la valse prend son essor. Fouetté de vin, mon sang bouillonne vers toutes les soifs qui me taraudent. Voilà. Donc, Hermann Hesse imagine que dans un salon où joue Chopin, on se défonce de plus avec le vin. Et puis, je terminerai par là. Et c'est pour moi assez extraordinaire. Pour Hermann Hesse, le vin, c'est une présence divine. Voilà ce qu'il écrit en 1904 déjà dans son roman, qui fut un succès, nommé Peter Camenzin, du nom de son héros. Je lis « Le doux et vigoureux Dieu m'a été un ami fidèle. Il le reste aujourd'hui. Qui peut être plus puissant que lui, plus beau, plus fantasque et fantastique, gai et mélancolique. C'est un héros et un magicien, un charmeur, frère d'Eros. Il réussit l'impossible. Il remplit les pauvres cœurs de belles étranges poésies. Moi, l'ermite, le paysan, il m'a fait roi, poète et sage. Tel est le vin. » Voilà, c'est tellement extraordinaire que, quitte à abuser de votre patience, je vous le relis. Donc toutes les vertus du vin qui sont les vertus de Dieu qui dispense à l'homme ses bienfaits. Je relis donc ces vers précieux. Le doux et vigoureux Dieu m'a été un ami fidèle, il le reste aujourd'hui. Qui peut être plus puissant que lui, plus beau, plus fantasque et gai et mélancolique? C'est un héros et un magicien, un charmeur, frère d'Eros. Il réussit l'impossible, il remplit les pauvres cœurs de belles et étranges poésies. Moi, l'ermite, le paysan, il m'a fait roi, poète et sage. Tel est le vin. Voilà. Et une dernière citation, aussi du même roman Peter Camenzind, donc qui date de 1904, où on assimile le vin à Dieu. Je lis. Alors, j'étais bon pour le bistrot, j'apparaissais dans une halle à Veltliner. Veltliner, c'est un cépage germanique. J'apparaissais dans une halle à Veltliner ou dans une cave vaudoise. Je buvais mon vin et j'attendais qu'il me console. Le doux Dieu m'a touché de sa tendre main féminine, a fait peser une suave fatigue sur mes membres et a mené mon âme égarée à bon port, au pays des beaux rêves. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que ça s'achève, cette émission Nectar. Je ne sais pas ce qu'est au juste le vin pour vous, mais voyez, pour un personnage comme Hermann Hesse à quel point le vin a une dimension poétique. Voilà. Eh bien, je vous en souhaite autant. Je vous souhaite une belle journée sur Radio Cité, bien entendu. À bientôt.